Par avance et sans savoir qui est l'étranger qui vient, ni savoir ce qui nous arrive aujourd'hui, j'adresse mon salut à vous tous et je me demande si dans ce petit mot banal et familier « salut », l'essentiel de ce qui vient sous le nom de cyborg n'est pas déjà dit, ou du moins explicitement annoncé. Car « salut » dit à la fois la salutation, le saint et le sauf, c'est-à-dire l'accueil de l'autre, le souhait de prospérité et la sauvegarde de soi, le risque de l'altérité, la préservation de l'intégrité et l'accomplissement d'une nature par-delà la mort. Salut donc aux organisateurs, Mario Gendre et Jean-Pierre Yored, à Augustin Berck et à Edith Gron qui nous accueille et habite si généreusement ce lieu. À nouveau, je suis donc à Cerisy, même si c'est la première fois que je parlerai de mésologie, ou plutôt que je parlerai au nom ou au sein de la mésologie, car je ne sais toujours pas à ce jour s'il s'agit d'un point de vue, d'une science, de l'unité virtuelle de toute discipline, d'une philosophie, d'un paradigme pour toute pensée à venir ou d'un impératif pour tout vivant humain sur la Terre ayant conscience de ce qui arrive. Quoi qu'il en soit pour le moment de cette définition, de son statut épistémologique et de son devenir, que j'ai traité par ailleurs, et de ce que cela signifie de le faire avec Augustin Berck, la mésologie est ce dont il est question pour nous tous ici à Cerisy et de son salut. Sur la scène de tous les vivants humains, celle où tout l'espace habitable est désormais occupé ou en voie de l'être, celle du nouvel âge géologique dont l'humanité est objectivement et collectivement responsable, l'Anthropocène. Or, tout comme je ne sais pas si je dois parler au nom de la mésologie, en tant que représentant de ce qui est ou ce qui serait dès lors un discours institué, contenu en ses limites, je ne sais pas si nous sommes déjà, si nous sommes vraiment, et surtout quel sens il y a d'être tous, nous les êtres humains, non plus présents sur la Terre, ni même terriens, indissociables de cette planète et de ce sol, mais bien ceux qui portent la Terre à devenir totalement humaine, à n'être plus qu'humaine, jusqu'à n'être plus, ou n'être plus une substance sans nous. Car on pourrait en effet se demander si la Terre est encore la substance de l'écoumène, si ce qui nous porte au moment où on la porte, à n'être plus qu'humaine, si elle n'a donc pas disparu. Sommes-nous les sans-terres, expropriés par nous-mêmes de ce qui nous accueille depuis toujours, errons-nous désormais tels des réfugiés de nulle part, sans monde ni avenir? De l'Anthropocène, il faudrait un autre paradigme pour comprendre ce qui nous arrive, à nous tous, comme propose de le mettre en question ce colloque. Mais il me semble qu'il faudrait, ici et maintenant, que la mésologie, en fonction de ce qu'elle est et de ce qu'elle peut devenir pour l'avenir de nous tous, en fasse aussi et peut-être, avant tout, un questionnement, une inquiétude, une critique, quant au fait acquis que l'Anthropocène serait notre condition commune, actuelle et à venir. D'une certaine manière, il s'agirait de savoir si nous sommes à la merci de l'insistance de l'Anthropocène, par la répétition du mot, par la légitimité scientifique du fait, par l'intensification vécue des effets sensibles. Ou si nous sommes capables de recevoir un tel présent comme une demande, comme un appel à la pensée, et pas seulement comme un salut à ce qui vient et à la sauvegarde de ce que nous sommes. C'est-à-dire à une pensée qui soit capable d'en donner le sens, quitte à devoir affronter les limites de ce qui pourrait apparaître aussi comme une idée fausse, qui impressionne par sa totalité synthétique, ou comme une menace grandiloquente issue du catastrophisme ambiant. Autrement dit, il faut accueillir la question de l'Anthropocène sans pour autant s'en tenir sauf de l'avoir reconnu comme présent. La formulation interrogative de la thématique de ce colloque autorise de se demander si la mésologie peut apporter cet autre paradigme. Mais elle autorise aussi, plus subtilement et plus problématiquement à mon avis, de se demander si un autre paradigme est nécessaire. Si tout paradigme est nécessaire. Et si l'Anthropocène est bien ce qui appelle cette série de questions sous ce nom et pas un autre, à savoir technocène, occidentalocène, capitalocène, etc. Donc en tant que signature ou rature, voire recouvrement, comme ça a été évoqué précédemment, de l'humain sur Terre. Je rappelle que la mésologie dit l'homme dans sa relation à la terre est géographein, celui qui s'inscrit sur la terre. Donc la question de la signature, du recouvrement et de la rature me paraissent assez importants. Ceci implique que la mésologie, en fonction de ce qu'elle est et de ce qu'elle peut devenir, pour l'avenir de nous tous, nous les êtres humains, face de cette situation inédite et démesurée dans l'histoire du monde, un questionnement. Démesurée par la quantité de mesures produites, c'est-à-dire l'effroi des grands nombres, démesurée par notre incapacité à en prendre toute la mesure, parce qu'évidemment, un tel phénomène dépasse nos capacités de perception, si ce n'est d'intellection. Ce n'est pas là une question de légitimité posée à un tel colloque, bien que tout colloque l'appelle, si ce n'est le suppose, mais il s'agit bien de savoir si la mésologie se présente et se représente comme la réponse, l'antidote, la relève, l'anastrophe, le salut de la nature humaine et l'assurance du bien commun. L'idée que la mésologie soit ainsi un autre paradigme devrait donc être interrogée, en ce sens que tout paradigmatisme peut lui aussi tendre à la totalisation, comme le suggère l'unitotalité du monde et la certitude sans reste de ce qui nous arrive derrière le nom ou sous les noms possibles de l'Anthropocène. Car il s'agit toujours d'un certain rapport au nom propre et au nom commun, la terre avec un petit t, la terre avec un grand T, mais aussi à la norme, à la loi, à la vérité, à l'unité et à la totalité qui s'établit quand on convoque ou construit un paradigme. Et ce, de Platon jusqu'à Quine. Il y va donc de ce que la mésologie exige quant à la diversité, ça a été là aussi évoqué précédemment, dans ou de l'Anthropocène, c'est-à-dire quant à la singularité coexistante et co-suscitante des lieux, des langues, des disciplines, des points de vue, des saluts, alors que c'est l'unitotalité qui pourrait plutôt s'imposer par la notion englobante et définitive que peut connoter l'Anthropocène. Cette exigence de diversité, c'est-à-dire aussi d'altérité, voire d'agonicité, de lutte, de polémos et d'agone, devrait aussi s'appliquer à la mésologie elle-même. Ce qui signifie qu'il faudrait s'interroger sur les tensions, sur les contradictions, sur les dissensus qui existent et qui existeraient entre les mésologues et les non-mésologues, avec les écologues et les écologistes par exemple, et entre les mésologues eux-mêmes et les mésologies, passées et à venir. Afin d'éviter à la mésologie berkienne, en l'occurrence, d'être à son tour une forme de totalisation. À ce titre, l'ambition affichée par la mésologie, au moins dans ce colloque, d'être un autre paradigme pour l'Anthropocène, en lieu et place du paradigme occidental moderne, comporte ce risque de réduction de la diversité, de l'altérité, de l'agonicité, au moins de manière subreptice, à travers la croyance d'une validité totale et définitive du point de vue mésologique, ou du moins de sa pertinence immédiate à tout problème anthropocénique, qu'il soit écologique, éthique, politique, social, esthétique, économique, etc. Il y a bien sûr une forme de fausse provocation dans ce que je dis, mais c'est à mon avis un risque dont il faut avoir conscience afin de partout chercher ces lignes de totalisation qui pourraient s'ouvrir. À ce titre, l'ambition affichée me paraît pertinente et indiscutable, mais en même temps, elle restera toujours inquiétante. C'est la réflexivité philosophique de la mésologie elle-même qui est en question, c'est-à-dire sa capacité à répondre de tous les saluts de l'homme, de la terre, de ce qui vient. Pour ma part, comme je le fais depuis ma rencontre avec la mésologie, je maintiendrai le dialogue ouvert quant à la nécessité d'un autre paradigme et que la mésologie puisse le proposer en lieu et place du paradigme occidental moderne. Un tel dialogue s'ouvre sur l'importance de la technique et d'une autre pensée de la technique, condition pour une mésologie cohérente avec ses principes et congruente avec les enjeux de l'Anthropocène. Il s'agit non seulement d'intégrer la technique au milieu, de penser le milieu technique et la technicité de nos milieux, mais j'insisterai surtout sur la nécessité de construire une mésologie technologique qui puisse penser l'écoumène et donc la Terre selon une approche plus transversale et problématique de la technicité qu'à la manière d'une dimension constitutive des milieux humains au même titre que l'écologique et le symbolique. L'écoumène étant, comme vous le savez, toujours éco-techno-symbolique dans la définition qu'en donne Augustin Berg. Cela signifie qu'il faudrait questionner aussi, aussi bien l'écologique, pardon, et le symbolique dans leur rapport aux techniques, mais de manière plus critique, de repenser la technicité propre au symbolique, voire à l'écologique, ce que l'anthropocène semble exiger ou imposer. Il ne s'agirait là en aucune manière d'un technologisme ni d'un réductionnisme fonctionnaliste. D'une part, il s'agirait de pousser jusqu'au bout la critique des dualismes propres à la mésologie, en tout cas telle qu'elle l'entreprend à la suite des autres critiques opérées en philosophie dans l'histoire finale de la métaphysique, si on peut dire, en tentant de penser la technique au-delà des oppositions entre matière et forme, entre moyens et fins, entre fonction et usage, en dépassant en même temps les alternatives entre vitalisme et mécanisme, entre humanisme et technicisme, entre technicisme et écologisme qui en résultent. D'autre part, il s'agirait de prendre au sérieux la révolution que serait l'anthropocène, si l'anthropocène est bien l'anthropisation intégrale, c'est-à-dire la technicisation complète de la Terre et la dépendance de son devenir à cette force et à cette volonté, considérée comme proprement humaine, en repensant la technique comme le milieu associé des êtres vivants humains. Autrement dit, l'anthropocène serait en quelque sorte la concrétisation, au sens du devenir nature de la technique chez Simondon, et du croître ensemble de Berck, de ce que serait l'humain depuis qu'il est humain, à savoir l'être vivant dont la vie est indissociablement organique et technique. Il n'y aurait pas ainsi révélation, destin ou fin de l'histoire dans l'avènement de l'anthropocène, mais quelque chose que la mésologie doit interroger pour assumer sa volonté d'être un autre paradigme pour le penser, et donc aussi, je ne sais pas s'il faut le supposer, le vouloir ou l'espérer, pour le transformer afin que la Terre, bien qu'humaine, j'insiste, bien qu'humaine cette fois-ci, puisse encore nous porter jusqu'à la fin. Si je viens de parler avec des accents apocalyptique, ou du moins selon un registre qui peut renvoyer au théologique et au religieux, c'est que la figure du cyborg dont je vais parler aujourd'hui n'est pas sans convoquer des prophéties, des espérances, des catastrophes, des révélations, des conversions, on a parlé de saint Paul tout à l'heure, des destinées, que la modernité n'a pas su évacuer, séculariser ou totalement transformer par l'idéologie du progrès, surtout après les désastres naturels et humains du XXe siècle. C'est en effet tout un ensemble de croyances religieuses, tout un registre de discours de la destination et du destin, du salut et de la sauvegarde, tout un ton apocalyptique qu'il faudrait déconstruire, tant il vient troubler et même détourner la question du cyborg et de ce qu'elle implique pour notre avenir. Et ce ton apocalyptique, ce registre eschatologique, théologique et téléologique, dans le discours sur le cyborg, est aussi inséparablement celui de l'humanisme, depuis les Lumières, comme celui de sa critique, qui prophétise la catastrophe, le désastre, la fin à venir, la fin promise, la fin toujours déjà là. À la manière de la thématique du colloque, mon titre est donc formulé comme une question ouverte, ne tranchant pas pro ou contra le devenir cyborg. Il s'entend en trois sens. Premièrement, existe-t-il un devenir cyborg? Si oui, qui ou quoi devient cyborg et comment? Deuxièmement, devenir cyborg est-il la condition de l'humanité à venir? Si oui, cette condition est-elle une condition ontologique, éthique ou politique? Troisièmement, le devenir cyborg de l'humanité est-il le sens de l'anthropocène et peut-il être repensé, l'anthropocène, par la mésologie selon un autre paradigme que celui imposé par la modernité, dont le cyborg serait le triomphe incontestable et final. On a parlé de la singularité, je dirai quelques mots de Kurt Weill plus tard. Le cyborg serait-il ainsi le modèle du nouveau paradigme mésologique pour repenser le transhumanisme? Je n'ai évidemment pas l'ambition de répondre à toutes ces questions aujourd'hui, même de tenter de répondre complètement à l'une d'entre elles. Je vais seulement m'attacher à proposer une approche de la question du devenir cyborg en la considérant comme une hypothèse quant à ce qui arrive à l'humanité et ce à quoi la mésologie devrait se confronter pour dépasser les oppositions et alternatives dont j'ai parlé plus haut. C'est-à-dire proposer une autre signification possible du transhumanisme, au-delà de la mythologie du progrès et de l'idéologie de la performance qu'il incarne dans une forme d'hypermodernité. À travers le cyborg comme concept philosophique, comme figure culturelle et comme devenir de l'humanité, telle est mon hypothèse donc, le transhumanisme pourrait être repensé par la mésologie alternativement à la transition vers le post-humain, à savoir comme un humanisme non anthropocentrique et non finaliste, mais aussi non ethnocentrique, non phallocentrique et non utilitariste. Le cyborg est aussi la figure emblématique non seulement de la modernité, mais de la virilité glorieuse. À la fois relationnel et dynamique. En un mot, un humanisme transductif. Lapsus révélateur. Parce que je vais préparer quelque chose aux transductions et trajections parce que c'est trop proche et en même temps la différence existe. Mais cette exigence qui reste une exigence, vous avez reconnu que j'étais simondonien, hein, forcément ça s'est placé. On parlera un peu de Simondon. Mais cette exigence, qui reste une exigence avant tout philosophique, ne peut se concrétiser qu'à la condition de repenser le cyborg autrement. Donc de ne pas y voir seulement ce qui incarne le paradigme occidental moderne dans toute sa splendeur transformatrice du corps, de l'esprit, et finalement de toute l'écoumène par la mécanisation intégrale, mais y voir surtout ce qui nous invite, voire ce qui nous enjoint, à repenser la relation entre l'homme, la technique et la nature. Car si devenir cyborg il y a, c'est ce que nous sommes autant que ce que nous faisons qui est en question. C'est-à-dire aussi bien l'invention du futur que les fins de l'homme, pour faire allusion à deux importants colloques précédant le nôtre. D'ailleurs, mon intervention sera en quelque sorte un salut à distance pour ce qui a eu lieu ici même sous ces deux noms, à savoir le colloque Gilbert Simondon ou l'invention du futur, auquel j'ai participé en 2013, et Victor Petit était là, et dont le philosophe Gilbert Simondon est pour moi la troisième source de la mésologie, avec Van Uxkull et Watsugi, et le colloque Les fins de l'homme autour du travail de Jacques Derrida de 1980, où les questions importantes pour nous qui pensons l'anthropocène aujourd'hui étaient déjà en jeu quant à l'humanisme, quant à la finitude, quant aux fins assignées à ce qui s'appelle l'homme, même si ni le milieu, ni l'environnement, ni le cyborg, ni le transhumanisme n'étaient traités comme tels, sans parler de la mésologie, évidemment. Mais point de synthèse de ces deux colloques proposés ici, un simple geste de salut qui ne me laisse pas sauf pour aborder la difficile question de l'anthropocène et de sa figure emblématique plus qu'humaine, le cyborg. Baumann découvrit qu'il existait même des penseurs dont les points de vue étaient encore plus audacieux. Ceux-ci ne croyaient pas que des êtres évolués puissent conserver des corps organiques. Tôt ou tard, prétendait-il, avec le développement des connaissances, ces êtres se débarrasseraient de cette enveloppe fragile, soumise aux maladies et aux accidents que leur avait fournis la nature, enveloppe vouée à une fin certaine. Ils remplaçaient leur corps d'origine dès qu'ils s'useraient, et peut-être même avant, par des constructions de métal et de plastique qui les rendraient immortels. Le cerveau subsisterait sans doute, un certain temps, comme un ultime élément organique, dirigeant des membres mécaniques, observant l'univers par des sens électroniques plus fins et plus subtils que tous ceux que pouvait développer une évolution aveugle. Sur la Terre elle-même, déjà, les premiers pas avaient été faits dans cette même direction. Des millions d'hommes, après cette première menace, connaissaient maintenant une vie active et heureuse grâce à des membres, des reins, des poumons, des cœurs artificiels. Ce processus ne pouvait avoir qu'un terme, aussi lointain fut-il. Et finalement, le cerveau lui-même pourrait disparaître. En tant que siège de la conscience, il n'était nullement essentiel. Le développement de l'intelligence électronique était prouvé. Le conflit entre l'homme et la machine serait un jour résolu, à jamais, par une totale symbiose. Mais était-ce bien là un terme ? Certains biologistes mystiques allaient encore plus loin. Ils pensaient, puisant en ceci dans les croyances religieuses, que l'esprit finirait par se libérer de la matière. Le corps robot, tout comme le corps de chair, ne serait qu'un échelon vers autre chose que les hommes appelaient le spirituel. Et ce qui se trouvait encore au-delà ne pouvait avoir qu'un seul nom, Dieu. Voici comment Arthur C. Clarke décrit en un court passage le devenir cyborg dans son célèbre livre de science-fiction de 1968, 2001, A Space Odyssey. 2001, A Space Odyssey. Ce texte condense en quelque sorte les enjeux philosophiques du devenir cyborg à travers un discours intérieur, méditatif, spéculatif, sur ce qui arrive, sur ce qui va arriver, sur le passage et sur la fin de ce que l'on appelle homme. Il intervient au moment où le héros, David Bowman, se retrouve seul après la mort de tous les membres de l'équipage du vaisseau, mort voulue par l'ordinateur central, HAL, intelligence artificielle qu'il vient par ailleurs d'arrêter définitivement. Il est d'abord question de passage dans ce texte, de passage au sens de quelque chose de transitoire et aussi au sens de quelque chose dont il faut se passer et donc à mettre irrémédiablement au passé. Ce quelque chose est tout d'abord le corps, en tant qu'il est limité par la faiblesse, la maladie et la mort. Devenir cyborg, c'est se passer du corps, ou plus précisément donner de l'avenir au corps en s'en passant. C'est-à-dire en passant de corps en corps, comme si le corps était tel que le bateau de Thésée, toujours jamais le même, toujours passé et toujours à venir. Ainsi, à mesure qu'il s'use, mécaniquement et symboliquement, les organes déficients sont remplacés, et le corps tout entier s'il le faut. Or, ce devenir du corps n'est pas seulement substitutif ou négatif, puisqu'il implique réparation mais aussi amélioration, grâce à la technologie, toujours plus performante. Le corps est ainsi doté de sens plus fins et plus subtils, de membres plus puissants et plus précis, d'organes plus fiables et plus durables. Le corps piteux, misérable, celui qui ne fait que passer et n'a pas d'avenir, est le corps organique. Alors que le corps glorieux, admirable, celui qui prétend à l'immortalité, est le corps technologique, le corps machinique, le technocorps pour parler comme Musso. Il en va ainsi tout autant de l'esprit, de la conscience, de l'intelligence, puisque le cerveau, lui aussi, ne fait que passer. Il est encore trop corporel, trop corruptible pour le salut de l'individu soumis à la honte prométhéenne, pour reprendre Anders, celui qui est jaloux du fait de ne pas être fabriqué comme les machines, qui elles le sont et sont épargnées d'avoir été seulement engendrées. Il ne subsisterait sans doute qu'un temps, nous dit d'ailleurs le texte, puisque l'électronique lui donne déjà l'avenir, on est en 1968, qu'il peut ne pas avoir en restant bêtement organique. Bêtement organique. Sommes-nous bêtement organiques? Si le corps et le cerveau sont passés, ils sont donc aussi finis, au triple sens d'être limités dans le temps, mortels, d'être limités dans leur capacité, faible, et d'être dépassé dans l'histoire de l'évolution humaine, ancestraux. Le développement des connaissances, donc de la science, est ce qui met précisément fin à ce qui n'a plus raison d'être. Ce qui devait être abandonné pour le meilleur, selon une eschatologie propre à la modernité issue des Lumières, mais qui prend ses racines dans le rationalisme de Descartes et de Bacon, chez les humanistes comme Pic de la Mirandole, voire chez les penseurs chrétiens médiévaux tels Hugues de Saint-Victor ou Basile de Césarée, il y a des racines très profondes dans l'histoire des pères de l'Église, rattachables directement ou presque aux cyborgs. La dignité de l'homme est, selon cette tradition métaphysique, celle de parfaire ce qu'il est, de devenir impeccable d'âme et de corps, c'est-à-dire non peccable, d'achever ce que Dieu a voulu, être à son image et racheter la dette adamique, au risque bien sûr, nous diraient les chrétiens, d'oublier son humilité quant à la distance infinie qu'il a avec Dieu. Par le devenir cyborg, l'humain est ainsi sauf de la contingence et devient ce qu'il doit être depuis l'origine. Il se réalise spirituellement en se mécanisant le corps et le cerveau, en résolvant le conflit entre la machine et l'homme, nous disait le texte. Or il y a plus. Puisque je cite, encore une fois mon texte, certains biologistes mystiques, comme Bowman le dit, vont encore plus loin, et doutent ainsi qu'il s'agisse là d'un terme de la fin des fins. En effet, en puisant dans les croyances religieuses, telles des technoprophètes, pour parler comme Dominique Lecourt, ils affirment que l'esprit finirait par se libérer de la matière, pour rejoindre le spirituel. Ce spirituel pourrait évoquer la noosphère de Teilhard de Chardin, Teilhard de Chardin étant un personnage très important dans l'idéologie liée aux cyborgs, mais même chez les éthiciens chrétiens comme Thierry Magnin, qui a écrit sur le transhumanisme, Teilhard de Chardin revient aussi comme une figure positive. Et Teilhard de Chardin a aussi inspiré Simondon, en passant, Barthélemy a très bien montré dans sa thèse. Mais le spirituel que l'on pourrait croire infini est lui-même fini, puisqu'à la fin des fins, toute fin dépassée, irrémédiablement passé, le devenir cyborg rejoint non pas le néant, mais Dieu, en sa limite selon un infini fini du spirituel. Et dans cet aspect-là, on ne peut pas être sans évoquer la longue histoire de la métaphysique où les infinis du fini sont le propre de l'homme. C'est ce que défend Hegel à sa manière, Husserl, etc., comme l'a bien montré Derrida, justement dans son texte « Les fins de l'homme ». Mais ce qui est dit ici dans le cadre de la fiction est-il ce qui nous arrive, à nous qui sommes censés vivre à l'époque de l'Anthropocène? Clarke aura-t-il anticipé ce qui serait pour nous un état ou une condition effective et concrète de nos existences? Sommes-nous réellement pris dans un devenir cyborg et ce devenir passe-t-il par ces étapes successives ou émancipatoires, suppressives, pardon, ou émancipatoires de ce que l'on appelle traditionnellement la nature humaine? Faut-il rejouer l'opposition entre science et fiction pour en comprendre les conséquences? Et l'Anthropocène ne serait-il pas justement un hybride de science et de fiction? Un fait et un potentiel? Un récit vraisemblable portant sur l'avenir? Dès lors, devons-nous donc passer par la science-fiction, par l'articulation imaginaire du technique et du symbolique, pour comprendre ce qui nous arrive? Après cette première menace, dit le texte, et alors que des millions d'hommes, comme dit Clarke, connaissent cette réalité cyborg dans leur corps, dans leur esprit, dans leur vie quotidienne, partout et tout le temps assurée par les machines, ce qui est quand même le cas de plus en plus de monde désormais. Pour commencer de répondre, il faudrait reprendre la question du rapport au symbolique que la mésologie instaure à travers les textes, souvent poétiques, prémodernes et orientaux, et jamais en référence à la littérature de science-fiction, à ma connaissance. Mais Augustin pourra répondre s'il a déjà glosé ou interprété des textes de science-fiction. Je ne crois pas les avoir lus, en tout cas, ces textes-là. Peut-être parce que la science-fiction est trop identifiable à un emblème de la modernité, alors qu'elle est aussi une critique anticipée de ses conséquences, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, et un récit où le nulle part peut s'affirmer comme un « ici à venir », un contre-espace possible, une dystopie recosmisante, ou un appel à la recosmisation. Sans poursuivre ici une telle interrogation sur la valeur herméneutique et critique de la science-fiction pour la mésologie, qui demanderait une étude spécifique évidemment, que dit-elle du devenir cyborg? Dans la troisième partie de l'histoire de l'habitat idéal, Berk propose une analyse du devenir cyborg, de l'être humain, qui ne passe pas par la fiction. Ce devenir commence par l'avènement de la modernité et affirme le rôle décisif de la révolution industrielle dans ce qu'il appelle la forclusion du corps médial, c'est-à-dire la séparation du sujet et de son milieu d'une part, et la réduction du corps animal à une machine, c'est-à-dire l'imposition de l'humain à l'humain, je cite, des règles de son propre fonctionnement objectal, d'autre part. Ce double mouvement de forclusion et de réduction est manifeste dans la définition originaire de Kleins et Klein, donne dans leur article de 1960, définition citée par Berk dans ce passage et reprise dans d'autres textes, et qui fait du cyborg non pas seulement un être mixte, à la fois cybernétique et organique, mais ce que devraient devenir les êtres humains ainsi libérés des contraintes de l'environnement, pour s'adapter à l'espace sidéral et vivre dans d'autres parties de l'univers. Une fois que la Terre sera foutue. Sera tue, mais foutue. Cyborg est en ce sens un être, je cite Berk, qui n'a plus besoin de la Terre. Il a franchi les murs de cette niche écologique. En revanche, il ne peut se passer de machine. Il lui faut un monde mécanique. Mais ce que Kleins et Klein postulaient ou pensaient comme nécessaire dans l'avenir pour dépasser la finitude terrestre de l'humanité, Berk le considère comme un fait de l'histoire de la modernité, qui tend à s'imposer à tous et partout sur la Terre, telle une nouvelle condition humaine, mécanique, informatique et urbaine. notamment via l'analyse de la ville proposée par Antoine Picon, auquel il se réfère. Du point de vue de la médiance, en effet, le devenir cyborg de l'humanité n'est pas seulement une émancipation de contraintes du corps animal, mais une transformation ontologique majeure qui fait de cyborg un extraterrestre, dit Berck, incapable d'habiter un monde. Cela vient du fait qu'il n'est plus qu'un être mécanisé par son monde mécanique, et cela ne concerne pas seulement son corps animal, augmenté de prothèses objectales, mais aussi le corps médial. Dans la mesure où, je cite, « notre corps médial est de plus en plus mécanisé, notre structure d'être est de plus en plus mécanique », fin de citation. Cette mécanisation du corps animal et du corps médial, du corps animal par le corps médial, dépasse selon Berck l'idée de Leroy Gourhan selon laquelle, je cite, « la technique n'est plus liée chez l'homo sapiens au progrès cellulaire, mais elle paraît s'extérioriser complètement et vivre en quelque sorte sa propre vie ». Fin de citation. Parce qu'elle affecte l'être de l'humain comme tel, en imposant les règles de fonctionnement de la non-vie des machines à la vie propre des humains. Il faudrait revenir ici sur de nombreux aspects de cette analyse, car ils impliquent des questions majeures quant à l'interprétation du cyborg, mais surtout quant à la définition de ce qu'est l'être humain de l'Anthropocène pour la mésologie. À savoir, ce que c'est que d'être terrestre pour lui. La première fois où j'ai parlé de mésologie, c'était en Corse, au colloque à Corté, et j'avais fait un texte sur ce que c'est que d'être extraterrestre pour l'homme. C'est l'une des questions majeures parce que j'ai un problème avec la substantialité de la Terre dans la définition de l'humain chez Augustin Berck. Mais ce problème est très complexe. Donc il reste un problème pour moi, c'est-à-dire un appel à penser. Je reviens à ce que je disais, à savoir que ce que c'est que d'être terrestre pour lui, ce qu'est sa vie propre par rapport à la non-vie technique et en quoi la machine est ce qui répète tout à l'identique et par là déshumanise automatiquement. Je reviens rapidement sur ma digression. Pour parler de l'extraterrestrité de l'homme, je renvoyais au conflit d'interprétation de la première sortie dans l'espace par Hannah Arendt d'un côté et par Carl Jaspers de l'autre, qui lui avait opéré une grande critique quant à la passion du foyer de la territorialité chez Heidegger. Et c'était très intéressant de les mettre en rapport et je médiatisais ça par Simondon. Bon, c'était une conférence de 20 minutes, donc c'était assez dense, mais bon. Donc, ce que c'est que d'être terrestre pour lui, ce qu'est sa vie propre, et la question du propre est considérable dans tous ces enjeux-là, et aussi pour comprendre ce que c'est que l'anthropocène, et tout ce que ça ramène de l'humain. Et c'est pour ça que je reviens aux fins de l'homme. Est-ce que c'est que le propre de l'homme, le non-propre, ce qu'il s'approprie, ce qu'il s'exproprie, etc. Et en quoi la machine est ce qui répète tout à l'identique, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, et par là déshumanise automatiquement. Dans Mésologie et Technologie, qui est un texte que j'ai écrit, qui est disponible sur mésologique.fr et puis qui est même disponible sur le web en général, j'ai proposé de relativiser cette conception du cyborg, notamment quant à son héritage heideggerien de la question de la technique et aux limites de sa conception encore subtilement métaphysique qu'on décèle dans le texte du philosophe allemand. Mais aussi quant à la généralisation de la modernité présentée par Berck comme une conception du monde relativement unique alors qu'elle est hétérogène et évolutive. Quant à la réduction de la machine à un schème répétitif de fonctionnement qui occulte la marge d'indétermination du fonctionnement et les conditions vitales de l'invention. Et enfin quant à l'utilitarisme implicite du paradigme du travail qu'il reconduit. La question du travail écuménal notamment, de la forclusion du travail, tout ça est très problématique pour moi. J'évite le plus possible le mot de travail qui est pour moi un concept économique et non pas un concept technique. Le dualisme de la matière et de la forme. En un mot, il faudrait revenir ici sur la relative forclusion de la technique produite par la mésologie, alors qu'elle pourrait proposer une autre pensée de la technique, ontogénétique et relationnelle, inséparable de la vie humaine comme du milieu, en congruence parfaite avec celle proposée par Simondon, celle d'une mécanologie analogue à ce que j'ai proposé d'appeler une mésologie des machines. À défaut de pouvoir développer ces éléments ici, on peut toutefois noter plusieurs choses qui pourraient aller en ce sens, chez Berck lui-même. Berk n'exclut pas absolument que la machine puisse être cosmisante, ce qui est très intéressant pour moi, et pour nous en général, je pense. Elle n'est pas le poison du corps médial, ni l'ennemi de la mésologie. Je pense que ça doit être dit, même si c'est dans une note marginale d'histoire de l'habitat idéal. C'est bien le mécanisme qui l'a réduit à être décosmisante, et ça on peut le comprendre aussi à partir d'Écoumène, alors qu'il pourrait en être autrement. Il pourrait en être autrement. C'est la fameuse contingence dont Berk parle souvent. Berk concède ainsi, je cite, que le fonctionnement de l'appareil suppose et renforce le tome, appareil avec un grand A. On pourrait dire le Gestell, même s'il confie qu'à ce moment-là, il ne pensait pas au Gestell. Non que la machine en soi ne puisse être mise au service de quelque figure humaine que ce soit, individuelle, collective, médiale, mais parce qu'elle est, dans ce cadre, mise au service préférentiel du tome. Fin de citation. Mais cette concession faite, il faudrait alors comprendre comment y parvenir, alors que la machine impose, dit Berk, un retrait de la main, en faisant passer la production du savoir-faire au faire-faire. Ce qui, pour Berk, semble entraver, voire empêcher, une recosmisation concrète et complète par exclusion de l'humain dans la poétique du monde. À mon avis, Simondon se réutile ici pour montrer que l'homme n'est pas le porteur d'outils que la machine remplace, comme il le montre dans Du mode d'existence des objets techniques. Car ceci est une idée commune reposant sur une anthropologie fautive et aliénante qui suppose une essence de l'homme par son assimilation à l'outil, premièrement. L'homme aurait pour essence le travail ou aurait pour essence d'être le porteur d'outils. Alors qu'il est l'inventeur et l'interprète des machines parmi lesquelles il vit et par lesquelles la vie médiatise les mondes. Tout comme la machine n'est l'outil que par réduction abstraite, le cyborg n'est la figure de l'aliénation au machinisme industriel généralisé que par une ignorance de la concrétude technique, laquelle ignorance conditionne notre incapacité à vivre ce que nous sommes à travers ce que nous faisons, notre concrescence. La deuxième chose à noter est que l'effet en retour, ce que Berk appelle l'effet en retour, du corps médial sur le corps animal, l'hominisation, est plus complexe qu'il ne l'avait d'abord admis dans Écoumène. Dans Poétique de la Terre, en effet, il réaffirme qu'il y a extériorisation du corps animal dans le corps médial par la technique et intériorisation du corps médial par le symbole, ce va-et-vient étant la trajection. Mais Berk adopte cette fois-ci clairement la thèse de Timothy Taylor, à savoir que, il le cite et je le cite à mon tour, le genre homo n'est pas seulement biologique, mais biotechnologique. Et cela dès l'origine. Car l'outil, qui commence vers moins 2,5 millions d'années avec les premiers galets taillés, précède de 300 000 ans son apparition. Bon, j'ajoute que très récemment, on aurait montré que les Australopithèques avaient déjà manipulé des outils presque vers 3,2 millions d'années avant que le genre homo n'apparaisse. Donc ça provoque encore d'autres questionnements. S'agit-il bien d'Australopithèques ou bien la technique a-t-elle précédé l'humain et l'a encore plus conditionné qu'on le croyait d'une certaine manière ? Pour aller vite, bien sûr. D'autres auteurs seront convoqués ensuite pour confirmer cette adhésion à l'idée que la vie humaine, proprement humaine, est biologique et technique, ce qui implique de reconnaître que la technique transforme le biologique et que l'évolution humaine est autant organique que technique. Dès lors, la théorie de la trajectivité humaine est à réviser, en quelque sorte, puisqu'à l'extériorisation technique et à l'intériorisation symbolique doit s'adjoindre, à mon avis, une intériorisation technique qui modifie le biologique comme le symbolique. Pour y parvenir, il faut donc soit dédoubler l'intériorisation en intériorisation symbolique et technique, soit repenser la technicité comme condition transversale de la trajectivité humaine, c'est-à-dire de considérer la technique comme milieu associé de la vie humaine. Ce geste ne remet pas en question la mésologie, bien sûr. Il précise sa théorie de la trajectivité et son analyse des chaînes trajectives complexes lorsqu'il s'agit non plus de la vie biotechnique, mais de la vie techno-symbolique, c'est-à-dire de la culture. Si l'on accepte une telle modification, on comprend que cyborg n'est plus la figure du triomphe de la modernité, mais la condition humaine au sens de ce qui arrive depuis l'origine. Une relecture de Leroy Gourhand, avec Stigler notamment, sur la question du défaut d'origine comme propre de l'homme, serait alors très intéressante pour mettre en question non seulement l'autonomie du corps social extériorisé au cours de l'évolution par le corps animal, présente chez le roi Gouran, mais surtout pour questionner la fin de l'extériorisation. La fin de l'extériorisation. Postulée dans 1000 ans par le roi Gouran lui-même, laquelle embarrasse Homo sapiens de cet appareil ostéomusculaire désuet hérité du paléolithique. Citation de le roi Gouran dans Le geste et la parole. La question posée par le roi Gouran à la toute fin du geste et de la parole, était en effet de savoir si l'homme totalement extériorisé veut rester sapiens, alors qu'il est désormais, je cite, libéré de ses outils, de ses gestes, de ses muscles, de sa programmation de ses actes, de sa mémoire, libéré de son imagination par la perfection des moyens télédiffusés, libéré du monde animal, végétal, du vent, du froid, des microbes, de l'inconnu des montagnes et des mers. L'homo sapiens de la zoologie étant probablement près de la fin de sa carrière. Fin de citation. Cette question du devenir de l'acteur sur la scène, de l'évolution est en quelque sorte une invitation à distance adressée à la mésologie de, je cite le roi Gouran à nouveau, repenser complètement le problème des rapports de l'individuel au social, parce qu'il était question du social tout à l'heure, mais pas dans le même sens. Envisager concrètement la question de sa densité numérique, la question de sa néo-malthusien, enfin de quoi il s'agit-il, de ses rapports avec le monde animal et végétal, cesser de mimer le comportement d'une culture microbienne pour considérer la gestion du globe comme autre chose qu'un jeu de hasard. Fin de citation. Cette invitation est en quelque sorte adressée par avance à la mésologie, elle est en tout cas un envoi qu'elle peut recevoir à partir du legs qu'elle accepte pour penser avec le roi Gouran la trajectivité humaine, et parce que la désuétude de l'homme n'est autre que le postulat du transhumanisme par lequel nous allons en finir, si l'on peut dire. J'arrive à ma conclusion. Dans un texte récent, Berg considère que négliger la corrélation entre anthropocène et transhumanisme pourrait, je cite, « conduire à ne pas en traiter pertinemment et ainsi à mettre en danger notre existence sur la Terre ». Il en va de l'avenir de ce que nous sommes et donc de la responsabilité de la mésologie. C'est-à-dire finalement de ce que signifie philosophiquement, historiquement, économiquement, éthiquement et politiquement proposer un autre paradigme pour l'Anthropocène. Car Berg rejoint Bonneuil et Fressoz pour soutenir que l'Anthropocène est le capitalocène et l'occidentalocène, c'est-à-dire la mondialisation d'un certain modèle de civilisation et non pas le simple développement de l'espèce humaine sur Terre. Et si Berg reconnaît que l'idéal transhumaniste, je cite, « de vivre plus longtemps, en meilleure santé, plus intelligent et plus heureux » n'a en soi rien de condamnable, et qu'un tel idéal est sans doute aussi ancien que l'humanité elle-même, ça recroise Stigler et la question de Prométhée, il n'empêche que l'illusion moderne et libérale de la maîtrise des lois physiques et des processus biologiques conduit finalement au désastre et à la disparition plutôt qu'à l'émancipation et la liberté. À la forclusion de la médiance provoquée par la cyborgisation du monde prônée par le transhumanisme, Berg oppose, je cite, « une véritable révolution ontologique », à savoir répudier la figure abstraite du sujet moderne toisant un environnement objectifié et reconnaître en revanche notre médiance pour assumer rationnellement notre condition écuménale. Fin de citation. Plutôt que de combattre le transhumanisme ou de nier que l'anthropocène existe, il s'agit de reconnaître que l'anthropocène et le transhumanisme forment un couplage dynamique. Et qu'il y aura donc toujours, je cite, « cosmisation du corps en anthropocène et somatisation de l'anthropocène en transhumanisme ». Fin de citation de Berg. Le transhumanisme ne se définit pas en ce sens comme un mouvement d'idées recherchant une transition volontaire vers un stade postérieur de l'espèce humaine obtenu par l'amélioration technoscientifique des capacités physiques et cognitives des individus, car ce transhumanisme-là est en quelque sorte un hyper-humanisme qui maximise l'humanisme classique, avec hyper au sens d'hystérique aussi, dans son ambition de supprimer l'homme fini, de le transcender par l'infini dans le fini, comme on peut le voir dans l'humanisme chrétien, dans l'humanisme de la Renaissance et dans l'humanisme des Lumières, et jusqu'à Marx et Husserl, au sens de l'infini dans le fini, mais il est hystérisé chez les transhumanistes actuels comme Bostrom, Peirce, Drexler, Moore, et se trouve à son comble chez Kurzweil, pour lequel l'humanité a vocation de se supprimer elle-même comme espèce vivante, par fusion avec les machines intelligentes, à mesure que la convergence entre les NBIC, comme on en a parlé tout à l'heure, permettra de transgresser toutes les limites et faire advenir la singularité. Le transhumanisme mésologique, si l'on peut dire, c'est au contraire le passage vers un autre humanisme, un humanisme autre que l'humanisme moderne, un humanisme de la fin de l'anthropocentrisme, de l'ethnocentrisme, du scientisme et du technicisme, un humanisme qui ne postulerait aucune nature humaine permanente et universelle qui lui viendrait de Dieu, de la nature, de l'histoire. C'est du moins ce qu'il pourrait être si la mésologie, en tant qu'étude des milieux humains, refusant l'exclusivité de l'être sujet accordé traditionnellement à l'homme, en relativisant cette subjectivité, même à un ensemble de relations mouvantes, pourrait prétendre vouloir proposer en tant que paradigme. Il serait, en un certain sens, un post-humanisme, puisqu'il chercherait à affirmer la limite philosophique et historique de l'humanisme, l'humanisme moderne depuis Descartes, voire tout l'humanisme métaphysique depuis Socrate, sans chercher à dépasser l'humain. Mais il serait surtout un humanisme du passage vers la vie, un humanisme dépassant les dualismes et les anti-humanismes post-modernes, un humanisme trajectif, ne laissant pas prise définitive à la menace d'annihilation, ni à la promesse de salut pour l'écoumène. À la suite de Haraway et de Hockey, le cyborg pourrait être la figure mésologique de ce transhumanisme en tant que couplage réciproque entre nature et technique au-delà des dualismes. L'anthropocène serait l'entrée en scène du cyborg, relève inquiétante mais incontournable pour que Sapiens demeure en son être et que le monde reste habitable par la déclosion de la médiance. Voici donc la fin. Je vous remercie de votre attention et je vous salue.